imaginez que vous êtes invité dans le restaurant de votre plus grand désir, enfin celui que vous attendez depuis longtemps, et que vous allez pouvoir prendre un des mets, un des plats que vous vous réjouissez, dont vous avez rêvé. Vous le voyez, ce restaurant? Vous voyez ce plat? Je sais que votre horloge biologique est déjà à midi moins quart, vu la pendule qui n'a pas changé, donc peut-être que vous avez faim, mais j'espère pas trop faim. Mais imaginez que vous allez avoir le plat que vous préférez. C'est un peu ce que nous allons découvrir ce matin dans la parole, qui est notre plat du matin. C'est un des textes importants du Nouveau Testament. C'est peut-être le texte le plus central dans la lettre aux Romains. Et certains diront le plus central dans le Nouveau Testament. Après, on peut débattre là-dessus. Mais quand on va dans un bon restaurant, il y a plein de bons plats, donc ne faites pas tout un plat. Prenez Romains 8 comme ce mets que vous allez goûter, que vous allez savourer, dont vous allez observer les couleurs, les senteurs, dont vous allez goûter morceau après morceau. Vous allez le digérer, vous allez l'apprécier. Et j'espère vraiment que ce matin, alors qu'on va parcourir Romains 8, vous allez pouvoir en prendre plusieurs saveurs. En fait, ce plat est tellement riche que j'ai eu un peu de peine à savoir sur quel point j'allais m'arrêter, parce que peut-être chaque verset ou tout au moins chaque paragraphe mériterait un enseignement au moins d'une heure ou un encouragement, une exhortation pour aller plus loin dans la vie avec Jésus, avec Dieu. Ce texte de Romains 8, je le résume, je ne sais pas quels sont les titres que les différentes versions ont mis, mais je vais dire vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Nous arrivons à une démonstration que Paul a faite depuis le chapitre 1 jusqu'au verset 7 pour tout à coup dire, il n'y a plus de condamnation, vivez par l'Esprit de Dieu. Et dans ce texte, il est dit plusieurs fois, être habité de l'Esprit, donc être dans l'Esprit. Quelqu'un qui me fait de la concurrence, là. Ah, mais ça va. Être habité de l'Esprit, ou bien être conduit. Non, attendez, il faut que je voie les vrais termes. L'Esprit qui habite en vous, vous êtes conduit par l'Esprit. Il y a à la fois le fait d'être dans la présence de Dieu, d'être rempli par l'Esprit, sans rien faire, sans agir, être habité par l'Esprit. Et puis aussi la dimension d'être conduit par l'Esprit, d'être animé par l'Esprit, d'être au mouvement. Et ces deux choses sont importantes. Parfois, on veut seulement être dans l'Esprit et rien faire. Puis parfois, on veut que faire et on oublie d'être dans l'Esprit. Et c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Vivre par l'Esprit, c'est être habité de l'Esprit pour ensuite bouger, se mouvoir, tout en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, on va essayer de prendre ce chapitre, je vais lire un certain nombre de versets et je vais commencer par les quatre premiers. Romains 8, dans vos Bibles, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Vous suivez toujours? C'est du Paul, là, c'est dense. C'est même un peu complexe par moments. Mais Paul nous entraîne dans cette réalité de l'Esprit, de cette liberté qui est donnée par l'Esprit. Et ce qui est génial à souligner dans ce premier paragraphe, c'est qu'on voit que Dieu agit en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas juste tout à coup, il n'y a que le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, il agit toujours avec le Père et le Fils, où le Fils agit toujours avec le Père et l'Esprit. Et on voit vraiment cette dynamique trinitaire qui est là, où Dieu libère de toute condamnation l'être humain en agissant avec le Père qui envoie son Fils sur la terre, qui prend notre nature humaine, qui assume notre nature humaine, qui résiste au péché et qui est crucifié sur la croix. C'est une manière de simplement, pas simplement, mais de nous libérer du péché. Lui qui est sans péché a été tué à notre place, a subi la condamnation du péché pour que nous en soyons délivrés et nous pouvons marcher par l'Esprit de Dieu. Et dans ce premier paragraphe, il est mentionné Dieu, le Fils et l'Esprit. Et c'est vraiment ensemble et dans cette famille trinitaire que nous sommes invités à marcher et que nous pouvons ouvrir les bras, un peu comme nous l'avons fait pendant la louange. Ce chapitre commence très fort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, pour ceux qui ont accepté la grâce que Dieu fait en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui étaient à l'aise, peut-être vous vous souvenez du chapitre 3:21 où il est marqué « Mais Dieu vient nous sauver en Jésus-Christ ». Il y a un « mais » de Dieu, où c'était « mais maintenant Dieu vient nous sauver ». Je ne sais plus exactement comment va le verset. Puis là, nous avons « donc maintenant, il n'y a plus aucune condamnation si nous sommes en Jésus-Christ ». Il y a un tournant dans cette lettre au chapitre 1. « Donc maintenant », c'est comme si la trompette de Dieu résonne et nous sommes libérés lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est une espérance. Si vous vous souvenez du texte de Romains 7 qui a été abordé dimanche dernier, à la fin de Romains 7 notamment, il dit « Malheureux être humain que je suis ». Paul fait un constat que tout seul, il lutte avec la chair et que bien souvent, il fait ce qu'il ne veut pas. Et il arrive au chapitre 8 et il dit « Mais en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation parce que Dieu m'a sauvé, parce que Dieu m'a libéré en Christ et je peux marcher par l'Esprit ». Nous sommes invités à entrer dans cette vie de Dieu, dans cette vie trinitaire. Et comme j'en avais parlé au mois d'août, c'est comme une danse dans laquelle nous sommes invités pour être ensemble. Et si je reprends l'image que j'ai prise au début du culte, oui, nous sommes, enfin, au début du message, nous sommes à la table, au restaurant, nous sommes à une table où nous partageons des plats ensemble et nous avons une communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et la table, ce n'est pas forcément le Père, le Fils et l'Esprit et vous, ça peut, mais ça peut être une table gigantesque où il y a tous ceux que vous connaissez qui sont en Christ. Allons un bout plus loin dans ce chapitre, au verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc là, on a conduit par l'Esprit, et il venait de dire pour ceux en qui l'Esprit habite. Enfin, Paul vient et dit des choses incroyables dans ces quelques versets. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou sont filles de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, l'esclavage lié au péché dont Paul a déjà parlé. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes adoptés par Dieu, par l'Esprit, pardon. Nous recevons un esprit d'adoption qui nous permet de dire Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Vous entendez tous ces termes, nous sommes fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers avec Christ, adoptés. Ça, c'est du lourd. Ça a une telle influence, un tel impact sur qui nous sommes en Christ. Je ne suis pas juste un petit pion à quelque part, et puis de temps en temps, Jésus pense à moi. Non, je suis son fils. Tu es sa fille. Et ça, c'est extraordinaire. Si vous avez des enfants, ou si vous prévoyez avoir, si vous imaginez avoir des enfants, qu'est-ce que vous allez faire pour vos enfants, pour vos fils, pour vos filles? D'une certaine manière, vous allez tout faire ce qui est en votre pouvoir pour que vos enfants vivent. Vous allez prendre soin d'eux simplement en offrant à manger tous les jours. Et puis, il y en a des journées dans la vie d'un enfant. Il y en a des repas. Mais vous allez même parfois vous relever la nuit quand il y a des pleurs, quand il y a quelqu'un qui a mal. Et essayez de prendre soin, de calmer. Vous ne vous dites pas, oh, ben, j'attends demain matin, puis je le laisse pleurer sous son duvet. Enfin, je ne sais pas qui fait ça. Hein? Ou bien lorsque tout à coup votre ado arrive et puis il commence à avoir des cheveux qui poussent, puis vous dites, il faut aller couper les cheveux, puis lui ne veut pas. Est-ce que vous allez lui dire, ben, tu vas vivre dans la maison d'à côté? Non, c'est peut-être un moment difficile à passer, il faut négocier, il faut travailler un peu la relation, mais votre fils mange tous les jours à votre table. Et c'est ça, Dieu nous prend à sa table. Et il nous prend tel que nous sommes. Et toi, tu es invité à être à la table de Jésus, tel que tu es. Et dans cette relation, dans cet amour qui est là, qui est donné, c'est pas remis en question. Même si tu fais des erreurs, même si tu te laisses pousser les cheveux, tu n'es pas remis en question, tu es là à table et Dieu t'aime. Tu es sa fille, tu es son fils, tu es co-héritier avec Christ. Comme Christ est notre frère, nous sommes co-héritiers, Christ appelant son père Abba, ben nous pouvons aussi dire à Dieu Abba, ou dans notre langue, en français, Papa. Et lorsque l'on dit à Dieu, Papa, c'est une très forte intimité qui se dégage. Mais c'est ce qu'on peut dire à table. Mes fils à table, ils ne m'appellent pas Thierry. Ils disent Papa. Depuis qu'ils pouvaient parler, mais ils le disent encore aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes ou que même l'un d'entre eux est déjà papa. C'est quelque chose qui reste, une intimité qui est là. Et nous sommes invités à aller juste dans cette intimité et de dire à Dieu, Papa. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Papa? Je sais que beaucoup le peuvent. Et en même temps, peut-être que là, en m'écoutant, certains ont le cœur qui se plisse ou qui se froisse parce que vous dites, j'aimerais, mais avec l'image du Père terrestre que j'ai eu, j'arrive pas. Et c'est des choses qui arrivent, évidemment. Suivant ce qui s'est passé avec le Père terrestre, c'est très difficile de dire « Papa » à Dieu. Néanmoins, tu es à cette table et il t'invite à aller plus loin dans cette relation. Et ça va peut-être prendre du temps, plusieurs repas, pour développer une relation où le Papa peut s'exprimer. Et tout à l'heure, on va prier. J'ai envie de prier pour ceux qui, justement, ont le cœur qui se froisse lorsqu'ils pensent à dire à Dieu « Papa ». Parce que par l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui peuvent se défroisser. Peut-être que ça se défroissera aussi en ayant des entretiens pastoraux ou psychologiques ou d'autres, suivant les blessures qui ont pu être là. Mais il y a une invitation à s'asseoir à cette table et à bénéficier de la présence de Dieu, Père, Fils et Esprit. Juste dans cette intimité de pouvoir dire « Papa ». Je ne sais pas si vous avez noté, mais à la fin de ces quelques versets qui sont si denses et si profonds, il est dit « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et étonnamment, juste là, Paul glisse la notion de souffrance. Et c'est important de le noter. Elle va en parler beaucoup dans la suite de ce chapitre. Paul n'est pas ignorant des souffrances que nous vivons sur cette terre, liées à notre humanité et au péché qui est encore là. Paul sait que dans la vie, il y a des souffrances, même lorsque nous sommes à cette table avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et il en parle. Et c'est important en tant que chrétien d'avoir une théologie qui intègre la souffrance. Elle fait partie de notre humanité. Nous sommes invités à prier pour grandir au travers de la souffrance, pour parfois en être libérés. Mais parfois, il y a des choses qui durent. Et Paul prend l'exemple de la création. Tout à coup, alors, On s'est presque envolé dans le ciel là, en étant avec Dieu, en étant co-héritier de Christ. Et il revient sur la terre en disant, « Et la création, regardez la création, elle souffre, elle soupire pour la révélation des fils de Dieu. » Les fils de Dieu, ben, il venait d'en parler. Nous sommes fils de Dieu. Et la création souffre et soupire pour cette révélation qui va arriver lorsque Jésus reviendra sur la terre. Lorsqu'il y aura la venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus sur la terre, et que ça mettra un terme et ça entrera dans ce qu'on appelle le paradis ou l'au-delà, dans ce nouveau temps, nous allons vivre sur la terre avec Christ. Et la création attend ce moment aussi. Et c'est intéressant de se dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Au verset 22, je lis, « Or nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » C'est intéressant que Paul parle de la création. Il ne traite pas les choses matérielles de manière négative. Non, elles ont été créées par Dieu, elles sont importantes. Il ne traite pas le corps physique que nous avons de manière négative. Non, le corps est important. Il fait partie de notre spiritualité, de ce que nous avons à donner. Et il intègre ces éléments. Et il dit, ben oui, nous attendons et nous espérons cette révélation. Et ça prend du temps. Et il prend l'image de l'accouchement, qui est une image en fait très très forte. Une femme, en pensant accoucher, elle peut prier tout ce qu'elle veut pour ne pas avoir mal, mais humainement parlant, elle va avoir mal. Il y a peut-être 0,1% de femmes qui ne sentent rien, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est un donné qui est là. Et puis l'image de l'accouchement, ben c'est oui, quelque chose qui est difficile. Et à un moment donné, ben, il y a l'accouchement, il y a la délivrance. Il y a ce moment où le bébé vient, il est posé sur la maman. Et c'est un soulagement, et c'est une forme de délivrance. Et il y a comme beaucoup de choses qui sont oubliées. Pas tout est oublié, mais beaucoup de choses. Et nous sommes comme dans ce processus de contraction, de difficultés, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il libère pleinement la terre et les humains du pouvoir du péché. Qu'il accomplisse, finalise, enfin, qu'il accomplisse ce qu'il s'est fait à la croix encore plus. Alors, c'est une réalité qui est là. Et dans cette réalité, Paul va dire, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la fin du chapitre. Nous sommes plus que vainqueurs parce que même s'il y a plein de choses difficiles qui se passent, nous sommes plus que vainqueurs parce que l'amour de Christ nous est partagé. Il y a des choses difficiles qui se passent, mais je suis toujours assis à la table avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc rien ne peut me séparer de cet amour. Et cette liste est incroyable. À la fin du chapitre, au verset 37, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cet amour révélé par le Père, le Fils et l'Esprit, à quelque part, ne peut pas nous échapper. Nous sommes pris dedans. Et en étant en Christ, nous sommes empreints de cet amour. Même lorsque nous traversons des temps difficiles, même lorsque nous traversons des temps qu'on peut appeler déserts, même lorsque nous sommes pleins de joie par rapport à une réussite ou une autre, dans tous les temps. Si on traverse des choses difficiles, si la mort frappe plus ou moins près de nous, l'amour de Jésus-Christ reste là. Nous sommes toujours enfants de Dieu, fils et filles du Père. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Mais cette souffrance, on la vit avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Cette souffrance, on la donne et on la transmet à Dieu et lui nous aide à Paul fait toute une longue liste, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. Cette liste, on peut la faire des fois avec des mots plus précis par rapport à nos situations. On peut dire ni le mépris de mes collègues ou de mes collaborateurs, de mon équipe, parce que je crois en Jésus, ni la distraction des réseaux sociaux dans laquelle je me perds trop souvent, ni la peur du lendemain ou la peur de la fin du mois, ni l'incompréhension de ma famille sur mon chemin de foi, ni rien ne me sépare de l'amour de Christ. Toutes ces choses que j'ai mentionnées, elles peuvent être lourdes par moments. Elles peuvent être oppressantes. Elles peuvent même déstabiliser, questionner la foi. Mais l'amour manifestant Jésus-Christ reste. Et je reviens à ce verset, je viens à ce verset 20, au verset 28 que on connaît bien, trop bien ou pas assez bien. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce texte signifie que Dieu est là en toute situation et que même dans les situations les plus difficiles, délicates et tragiques, il peut en tirer du bien. Ça fait écho à plein d'histoires, notamment de l'Ancien Testament. Une que j'aime beaucoup, c'est celle de Joseph qui se termine quand Joseph dit Dieu a transformé le mal en bien, quand il s'adresse à ses frères qu'il avait vendus. Ils avaient peur d'être tués par leurs frères qu'ils avaient vendus. Joseph leur dit non, mais ne vous en faites pas, j'ai vu que Dieu a transformé le mal en bien et ça a sauvé notre famille et notre nation. Ce texte est important, mais parfois, quand on le lit comme ça, c'est des fois difficile à se dire, attends, là, il y a une tuile qui me tombe dessus et ça contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, mais est-ce que ça contribue à mon bien, cette tuile? Non. Ou pas vraiment, en tout cas pas immédiatement, et c'est difficile à comprendre. Et faisons attention avec ce verset de ne pas le balancer trop vite à des gens qui prennent une tuile. Ou quand quelqu'un meurt dans la famille, puis on envoie ça deux jours après. Non, ça ne va pas. Ce verset a été traduit, ou on peut le traduire, de manière différente, mais il faut que je te redemande, Christine, parce qu'on en a parlé au déjeuner ce matin, et elle sait comment on le traduisait avant.
En toute chose, Dieu travaille au bien avec ceux qui aiment Dieu. En toute chose, Dieu travaille au bien avec ceux qui aiment Dieu. Ce qui est un peu moins plaqué comme ça que... cette chose-là, ce décès, cette maladie contribue au bien, ce qui peut être un peu choquant. Mais dans ce qui se passe maintenant, dans cette tuile, comme il disait, dans ce malheur qui est là, Dieu travaille au bien avec nous.
Merci. Voyez la richesse de ce restaurant auquel vous avez été invité au début, et on n'a encore pas fait toute la carte. Il faudra y revenir une autre fois. Cette semaine, prenez le temps de le lire et de méditer, de prendre les questions que nous vous avons envoyées, d'en discuter dans les groupes de maison. Je crois qu'il y aura des choses très riches à partager. Et laissez-vous entraîner dans cette liberté que Jésus nous donne. Nous ne sommes plus attachés ou liés par le péché, nous sommes libres en Christ, libres d'être en relation avec Dieu, avec le Père, le Fils et l'Esprit, et ainsi libres d'être en relation les uns avec les autres. Et nous pouvons aller plus loin. Viens, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Continue d'habiter dans nos vies, dans nos cœurs, par l'Esprit. Continue, Saint-Esprit, de nous conduire. Aide-nous à avoir cette capacité à nous laisser être animés par toi, dans tous les aspects de notre vie, là où nous avons parfois même peur ou de la crainte ou de l'angoisse. Viens, Saint-Esprit. J'aimerais faire un appel tout d'abord pour l'un ou l'autre qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il y a une invitation à ouvrir ton cœur, votre cœur, à Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Et ce texte nous dit que celui qui croit en Jésus, celui qui a placé sa confiance en Jésus, qui est Fils de Dieu, il reçoit la vie, une vie qui va dans l'au-delà. Il reçoit le pardon et un sens à l'existence. Et ce matin, il y a une invitation. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas fait ce choix, je t'invite fortement, d'une certaine manière, avec enthousiasme, à répondre à l'invitation et à dire « Jésus, j'aimerais te connaître davantage. Jésus, j'aimerais placer ma confiance en toi pour le reste de ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura envie de faire ce pas, de faire cette prière? Est-ce que si quelqu'un a envie de le faire, qu'il lève la main? C'est une invitation qui est là maintenant, c'est une invitation qui est là demain, qui est là à plein d'autres moments. Si pendant la semaine, ou dans les semaines à venir, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de faire ce pas, parlez à un des responsables de la paroisse, de l'Église. On sera heureux de vous accompagner. J'aimerais vous inviter à vous lever. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que dans ta présence, nous sommes transformés. Merci parce que nous sommes rejoints et que ta parole se déguste et nous pouvons ensemble l'apprécier. Seigneur, je prie que tu nous conduises dans ce temps maintenant. Et oui, je fais un appel maintenant pour ceux, lorsque j'ai parlé du fait de s'adresser à Dieu le Père avec ce mot intime, Papa, et ceux pour qui ça a peut-être été difficile de l'entendre ou de se dire « Ah, mais je ne peux pas faire ça », je vous invite à venir devant et j'aimerais prier pour vous comme un premier, comme une étape dans ce rapprochement que vous pouvez vivre avec le Père Céleste. Parce qu'il y a une telle, comment dire, une telle grâce de pouvoir appeler Dieu, le Dieu de l'univers, le Créateur, de pouvoir l'appeler Papa. Et ça conduit à une telle intimité. Et si votre cœur est blessé, si votre cœur est abîmé par ce que vous avez vécu sur la terre dans votre relation avec votre Père terrestre ou d'autres manières qui vous empêchent d'appeler le Père Céleste Papa, venez devant et j'aimerais prier pour vous pour que la transformation que le Saint-Esprit veut opérer dans votre cœur continue et que dans cette présence de Dieu par le Saint-Esprit, il y ait des choses qui se passent. Et si vous le souhaitez, ben je vous invite à venir devant maintenant.